Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être avec vous, hein, comme chaque lundi, 19h, 20h30, hein, votre rendez-vous hebdomadaire sport et omnisport comme toutes les semaines. Alors naturellement, dans la deuxième partie de cette émission, on aura le point foot avec notre ami Stéphane Desenclos. On parlera des vœux du CNOSF avec donc Vanessa. On aura aussi un petit reportage d'Alexandre qui a fait ses grands débuts, hein, de reporter sur le terrain, donc concernant une table ronde organisée à l'ARCOM. Et puis je l'ai dit, émission complètement omnisport, donc ce soir, après avoir parlé handball la semaine dernière, on va parler escalade avec nos invités. Ils sont nombreux. Je vais d'abord saluer Thierry Calmels. Bonsoir Thierry, responsable de la section 8 Azur, c'est ça, hein ?
Oui, bonsoir. Donc moi c'est Thierry Calmels. Oui. Donc je suis responsable d'une association sportive qui s'appelle le 8 Azur, oui, dans le 8e arrondissement de Paris, à peu près 560 membres. Mmh. Alors après, on a une caractéristique, c'est que l'association est principalement orientée autour des jeunes.
Oui.
Donc on a à peu près plus de la moitié de nos membres qui ont moins de 18 ans. Et on est aussi une pratique autour du handisport, à peu près 40 personnes en situation de handicap dans le club. Donc du handicap physique, du handicap mental et du haut niveau valide et handisport.
Et pourquoi l'escalade ? C'est arrivé comment dans votre vie ?
Alors, pourquoi l'escalade ? Bah, comme beaucoup de dirigeants associatifs, mes enfants voulaient faire de l'escalade. Mmh. C'était compliqué de trouver un sport à Paris pour des enfants. Donc, j'ai trouvé ce club. Et puis, une chose en entraînant une autre, je me suis investi jusqu'à être aujourd'hui son président.
Très bien. Vous êtes accompagné de notre ami Francis Crémer qui vient de l'Essonne. Francis, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, président du comité territorial, c'est ça, hein ?
Alors, président du comité territorial de la Fédération française de la montagne et de l'escalade.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'alpinisme ?
Non, alors, il n'y a pas que l'alpinisme à la Fédération française de la montagne et de l'escalade. Il y a les raquettes.
Ouais, ouais.
Alors, attendez, il y a le ski alpin.
Ouais.
Il y a le canyonisme.
Oui.
Alors, et le troisième, et le quatrième.
Et l'escalade, c'est surtout ça le plus important.
Et il y a l'escalade. Et en fin de compte, j'ai précisé, parce qu'il y a d'autres fédérations, quand même, qui s'occupent de l'escalade sur Paris. Il y a d'autres fédérations.
Voilà. D'accord. Alors, quel est votre rôle par rapport à ces fédérations ?
On a très, très peu de rapports. C'est des chemins parallèles avec l'objectif l'escalade. Mais, par exemple, on a la FFCAM. La FFCAM, c'est la Fédération des clubs alpins de la montagne. Ils ont, je crois, deux clubs sur Paris et ils sont plus en direction des sports extérieurs de nature.
D'accord.
Et on a la troisième fédération qui est la FSGT, qui elle est la Fédération sportive et gymnique du travail, mais c'est une fédération multisport qui a une section escalade. Mais voilà, c'est un peu...
On reparlera un peu de tout ça, parce que c'est peut-être un des avantages pour votre sport, d'avoir toutes les fédérations. Mais vous êtes quand même sous l'égide de la Fédération française d'escalade, non ?
Exactement.
Quand même.
Et la Fédération française d'escalade est délégataire auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports.
Très bien, on va aussi avoir un troisième invité, donc Fabien Demarty, directeur régional de l'association Arcos.
Bonsoir. Ce n'est pas une association, c'est une société.
Non, bien sûr. Non, ma société, absolument. un petit lapsus, mais bon, le savais. Voilà, société Arcos, très investie dans le domaine de l'escalade.
Tout à fait, c'est une société. On a actuellement une trentaine de salles réparties entre la France, la Belgique et l'Espagne. Et plus précisément sur l'Île-de-France, nous avons 13 salles, dont 11 pardon, en bloc et 2 en voie.
Oui, et une de tout près d'ici. Hein.
Tout à fait.
Rue Chevaleret.
Rue Chevaleret que nous avons acquis récemment, qui fonctionne plutôt bien. Et on est ravis de ce déploiement parisien.
Très bien. Et je veux saluer Vanessa aussi. Ça va, Vanessa ?
Très bien, Philippe.
Ouais. T'as passé une belle semaine ?
Très bien. Ouais.
Bon, on attend notre ami Alexandre qui est un petit peu coincé dans les embouteillages, hein, mais enfin, il sera là à l'heure pour vous faire aussi le journal des sports. Alors, parlez-moi un peu, Fabien, justement, cette société. Qu'est-ce que ça lui apporte d'avoir investi dans un sport comme l'escalade ? Pourquoi ?
Alors, l'escalade, c'est un sport qui est extrêmement. Enfin, déjà, qui a le calvaire en poupe. Hein, depuis une dizaine d'années, on sent qu'il y a quand même un engouement de plus en plus fort. Ouais. C'est un sport individuel, mais extrêmement collectif finalement, extrêmement bienveillant. Arkos a pour vocation, pour mission de créer des lieux de vie vraiment dans lesquels on puisse exprimer son art au niveau de la grimpe et puis profiter d'un petit restaurant, de bar. Oui. On a créé des concepts de lieux assez chaleureux.
Ouais. C'est ça partout, c'est-à-dire ces pubs, restaurants, et puis si on a envie d'aller faire un peu de sport en même temps.
L'idée principale, c'est quand même d'aller grimper, c'est
voilà,
juste de se
c'est
dire.
C'est l'idée principale. Voilà.
L'idée, c'est de pouvoir passer un bon moment entre amis après une séance de grimpe. Et on est très content le marché est de plus en plus. Il y a une concurrence de plus en plus accrue sur Paris.
Oui. Et ensuite, pour la pratique plus quotidienne, plus régulière, y en a des bénéfices ou c'est juste comme ça, le temps d'une soirée, on vient passer un bon moment ?
Alors, on a plein de bénéfices, des bénéfices physiques déjà. La grimpe, c'est un sport qui fait travailler tout un tas de muscles que vous ne sollicitez pas nécessairement en temps normal ou en salle de sport. Il y a de nombreux bienfaits également pour l'esprit, c'est toujours agréable. Et on a, quand la mouche vous pique, en général, vous êtes extrêmement assidu et il y a une grosse récurrence dans la pratique de la grimpe.
Donc les gens reviennent et éventuellement, ça les pousse après à aller prendre une licence dans un club, dans une association, justement.
Alors, on a plein de gens qui sont issus de clubs et qui viennent dans nos salles. On fait partie d'un écosystème qui est en pleine ébullition et donc il y a pas mal de passerelles effectivement entre le privé et le public.
Alors vous l'avez dit, beaucoup sur Paris et sur l'Île-de-France.
Tout à fait.
On peut les trouver où sur Paris, excepté tout près de chez nous là.
Alors on est dans le 13e, on a ouvert récemment à Montmartre, on a ouvert à Strasbourg-Saint-Denis, notre flagship comme on dit est à Nation. On est présent à Montreuil, à Pantin, à Issy-les-Moulineaux. On a ouvert une salle de bloc à côté d'une ancienne salle de voix. On est présent à Massy-Palaiso de manière un peu plus excentrée, où il y a un gros vivier d'ailleurs de champions et championnes. On a Oriane Berton, ce genre de personnalité. On a ouvert à Nanterre aussi, ça se développe.
Et est-ce qu'il y a d'autres lieux où c'est prévu dans les prochains mois,
Alors, on ouvre en mai.
Oui,
tout à fait. On a une concession au Centre aquatique olympique à côté du Stade de France. Normalement, une ouverture qui est prévue début de l'été. On ouvre une seconde salle en fin d'année à Bruxelles, pardon. Et pour l'instant, c'est.
Ouais. Et je pense qu'il doit y avoir des organisations festives autour de ça, c'est-à-dire. Enterrement de vie de garçon, de vie de jeune fille, ça doit se faire, ça doit être.
Non, c'est pas trop l'esprit de la maison. Non. On organise quelques team building, des séminaires, ce genre de gens. Des anniversaires pour des enfants.
Un séminaire, par contre, c'est important, pour
des sociétés. On organise des anniversaires pour des enfants, mais non, enterrement de vie de garçon, malheureusement.
Non, parce que ça se fait dans d'autres sports.
Alors, chez nous, c'est pas trop l'esprit.
On vous l'a pas demandé encore.
Pas encore.
Ouais, très bien. D'une façon générale, comment va votre sport sur l'Île-de-France et sur Paris ? Est-ce qu'il y a eu un afflux de pratiquants et pratiquantes, notamment après les Jeux ?
Alors, ça n'a pas été. Si ça a été le cas, ça a été vraiment très, très sensible.
Oui, vous avez pas de médaille.
Alors, il y a
non,
ce phénomène.
Ça joue, hein.
Mais bien sûr, il y a eu ce phénomène-là. Mais non, on n'a pas spécialement remarqué que les clubs.
Oui, il n'y a pas eu à gérer cet afflux de.
On a la même croissance annuelle qu'on a depuis une dizaine d'années. Mm-hmm. Voilà.
Combien de clubs vous avez sur Paris ?
Alors, c'est compliqué. La fédération a 12 clubs sur Paris.
Oui.
La fédération. Mais il y a d'autres fédérations, comme je vous disais, représente 25 clubs. C'est 25 clubs réunis donc entre 2 de la FFCAM, 11 de la FSGT et 12 pour nous. Ça fait donc 25 clubs.
Mais pourquoi avoir autant de fédérations ? Il ne pourrait pas y avoir une seule et même. Ça serait quand même pour tout le monde mieux quand même.
Et là, c'est un autre débat.
Oui, non, mais justement, on est là pour ça. On est là pour ça. On est là pour ça, justement.
C'est ouais. Sincèrement, ce n'est pas une demande au niveau de nous licencier.
Oui, non, mais bien voilà. Sûr.
Mais, et en fin de compte, comme je vous disais, on a la FFCAM qui a vraiment
mais
historiquement...
Mais c'est quoi l'intérêt? C'est quoi le...
La FFCAM est plutôt dirigée vers l'alpinisme. Et par contre, la FSGT, c'est tout à fait autre chose.
C'est une fédération, après, c'est une confédération des travailleurs. Oui, c'est différent.
Voilà, en plus, exactement. Ils ont une grosse section escalade. Oui, oui. Ils ont toujours apprécié. Mais donc, à mon avis, il y aurait très, très peu d'intérêt. Mais si vous voulez, grosso modo, les trois fédérations réunies, ça représente à peu près 5 500 adhérents. Mm-hmm. Voilà, sur 25 clubs.
D'accord.
Mais... Et sachant qu'il y a, sur 25 clubs, il n'y a que 25 murs. Géré par la ville de Paris. Mmh. Voilà, sur les 70 murs qui existent à Paris.
Oui.
Et qui sont souvent des murs privés, des murs scolaires, oui. Des murs qui appartiennent à des comités d'entreprise. Voilà.
Mmh. D'accord. Voilà. Et donc, ça veut dire que ceux qui écoutent ce soir ou celles qui écoutent, elles peuvent rejoindre les clubs. Là, il n'y aura pas de refus.
Et là, si.
Ah
et
bon
là, si. Par exemple, à la FSGT, ils ont une liste d'attente de 800 adhérents. De 800 adhérents potentiels qui sont sur liste d'attente. Je pense que lui t'assure, vous n'êtes pas loin du burn-out.
Et pourquoi?
C'est parce que sur un mur...
Il n'y a pas assez de murs.
Bien sûr, il n'y a pas assez de murs. Et on est limité par la surface praticable.
Mm-hmm. C'est le même problème dans votre club, dans le 8e arrondissement?
Alors oui et non, parce qu'en fait, on a, nous, géré une grosse croissance de nos adhérents. Hein, c'était 20% l'année dernière. Cette année, on est stable. Mmh. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a une logique d'optimisation de l'utilisation du mur. C'est-à-dire que nos adhérents doivent, comme le font pour des cours de tennis, réserver leur séance de façon à ce qu'on prenne le maximum de personnes et qu'on ait tout le temps le mur qui soit occupé. Donc aujourd'hui, on reprend des inscriptions là de temps en temps. On est pratiquement à la capacité maximum et la capacité, elle est pour les adultes, on pourra s'inscrire. Pour les enfants, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une notion de parcours d'apprentissage et faire rejoindre un enfant en cours d'année, oui. c'est perturbateur pour l'organisation du cours. Et la réglementation aussi en escalade, c'est un sport qui est un sport à risque. Donc,
ouais,
on a des gens qui soient
ouais, on
formés.
On va l'aborder, ça. Ouais.
Et donc, on a des directives de la fédération par rapport à l'encadrement maximum d'un groupe d'enfants. Alors, nous, on fait que de la voie et du bloc, mais sur la voie, c'est limité à 12 personnes par encadrant. Mm-hmm. Donc, c'est ça la limite. Donc, nous, pour maximiser l'accueil, on a 2 encadrants pour chaque cours, ce qui fait qu'on peut accueillir 24 enfants. Et puis, on fait aussi un public très jeune à partir de 4 ans. Et pour ces publics-là, la réglementation un peu différente, c'est maximum 6 petits par encadrant. Donc, ça fait des cours à 12. Donc, c'est ça qui va calculer la capacité théorique d'accueil pour cette population-là. Je ne parle pas du handisport qui obéit encore à des règles un peu particulières. Mmh. Et après, pour les adultes, là, c'est beaucoup plus facile. Ouais.
Donc, vous, c'est pareil, on ne peut pas vous rejoindre.
Si, vous pouvez nous rejoindre, il restera quelques
D'accord.
places.
Okay.
Probablement pas pour les enfants, mais pour les adultes, il n'y aura mm-hmm. pas de.
Et donc, c'est un sport où, vous l'avez dit, on commence à 4 ans et on peut le faire très tard.
Il n'y a pas de limite d'âge ouais. théorique. Hein. Je crois qu'il y avait des grimpeurs qui avaient plus de 100 ans qui continuaient à pratiquer.
Ah, c'est beau, ça.
Donc, mm-hmm. Enfin, c'est la condition mm-hmm. physique qui va être le critère déterminant, mais il n'y a pas de limite d'âge supérieure. On mm-hmm. est un peu meilleur que Tintin, c'est de 4
oui.
à. Enfin, pas de limite
ouais.
d'âge, quoi.
Ouais. Est-ce que c'est un sport dangereux pour assurer les parents?
C'est pas un sport qui est plus dangereux qu'un autre.
Ouais.
Pour vous donner des chiffres, on a fait une grosse étude avec notre directeur de l'escalade sur l'accidentologie. Et dans les ordres de grandeur, c'est 1 pour 1000.
Donc
c'est moins que le foot. C'est ouais. pas du tout. C'est pas un sport qui est très dangereux ou pas plus en
oui.
tout cas.
Et quand on se baisse, qu'est-ce qu'on a? Une fracture, une
foulure.
Alors
ça c'est un peu plus variable.
Ouais,
ça
ouais,
dépend
oui.
du bloc, ça dépend
oui,
de la
oui.
voie. En voie c'est plus rare, mais c'est plus impressionnant. En bloc c'est plus fréquent, mais c'est moins impressionnant.
Mm-hmm.
Ça va de l'entorse à une petite déchirure musculaire. Mm-hmm. Ça peut être un
oui,
peu plus grave.
Oui, parce qu'on va rappeler quand on commence l'escalade, il y a, je crois, plusieurs spécialités. Il y en a
alors,
trois, c'est ça?
Alors ça dépend de quoi vous parlez. Au niveau pédagogique ou au niveau...
Ah, il dit d'abord pédagogique.
Non,
bah
alors,
au
niveau,
après,
il y a une progressivité
ouais.
des
voilà.
lois, effectivement. Alors chez Arcos spécifiquement, on mm-hmm. part sur... Il y a un code couleur, mais c'est chez tout le monde.
Ouais.
Enfin, un code couleur qui peut être différent d'une société à l'autre. Après, on a, au niveau pédagogique, on a, on a les enfants et les adultes. Mmh. Chez nous, l'intégralité de notre école d'escalade représente à peu près 5500 personnes, dont 3000 en Île-de-France. Un quart donc représenté par des adultes, trois quarts par des enfants. Les enfants, c'est segmenté par tranche d'âge, alors que chez les adultes, c'est segmenté par niveau. Mmh. Débutants, intermédiaires et confirmés. Les débutants, on propose des cours découvertes qui sont encadrés par des moniteurs qui sont donc détenteurs de CQP et autres diplômes d'État. Et puis, pour les adultes un peu plus confirmés, en général, on les envoie ensuite vers des clubs, justement, pour créer des passerelles, comme je disais tout à l'heure,
entre il faut dire, quand on vient dans un de vos établissements, hein, outre le fait qu'on consomme une boisson ou qu'on mange, si on veut faire de l'escalade, c'est encadré automatiquement, on ne peut pas comme
Alors non, nous, à la différence des clubs, c'est que c'est une pratique libre.
Vous avez, ah oui, c'est libre quand même.
Oui, complètement. Sur le bloc, c'est quelque chose qui est assez naturel, il y a des gens qui ont des prédispositions.
Et si la personne se blesse?
Alors, il y a des discours de sécurité qui sont tenus à l'accueil. En voie, c'est un petit peu plus... c'est beaucoup plus encadré, où il y a des tests d'autonomie, ainsi de suite, qui sont faits. Mais en bloc, c'est de la grimpe libre. Donc, vous pouvez venir sur les horaires d'ouverture, grimper comme vous souhaitez. Et vous avez ce qu'on appelle les hôtes d'accueil polyvalent chez nous, qui distillent les conseils de sécurité rudimentaires pour éviter un maximum de se blesser. Ah oui. On a des écrans qui diffusent aussi tout un tas de règles de sécurité et des affichages en parallèle.
Francis, il y a des spécialités dans l'escalade. Quand on commence ce sport, on est obligé de s'orienter tout de suite, de se spécialiser, non ?
Absolument pas.
Ah, oui.
Absolument pas. On a trois spécialités. Oui. Il y a le bloc.
Oui.
Hein, ça veut dire que sur un mur, maximum 4,50 m.
Ouais.
Il y a la difficulté, qui, elle, peut se faire sur des murs en fonction de la structure de ce qu'on appelle la SAE, surface artificielle d'escalade, qui peut aller de 6, 7, 8 jusqu'à 15 mètres, je
D'accord.
crois même 18.
Ouais.
Et on a la vitesse.
Ah oui,
c'est une toute nouvelle discipline, toute nouvelle, assez récente. Voilà, c'est les trois.
Et ça, on est obligé de se spécialiser. On ne peut pas tout de suite, quand on rentre, on dit, tiens, je vais choisir la vitesse plus que le bloc, quoi.
Ah non, ça, il faut oublier pour la vitesse. Hein. Ça, vraiment, c'est vraiment une pratique très, très particulière. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule voie, une voie qui est mondiale, qui est pour tous les compétiteurs. Et en fin de compte, ils arrivent à la faire en, je crois, 5 secondes.
Oh, ouais.
Donc, n'importe qui n'aura pas tout de suite le dynamisme pour grimper et aller. Voilà, il y a un côté un peu félin pour.
Mais alors, quand on commence l'escalade, alors on s'oriente vers quoi?
Alors, pour nos clubs parisiens, c'est plutôt de la difficulté. Voilà,
d'accord.
On commence par la difficulté. La difficulté, c'est lorsqu'on est encordé.
Oui.
Hein, on a un assureur et on grimpe.
D'accord.
Voilà. Ça, c'est la difficulté. Et il y a quelques salles. Quelques clubs qui ont un mur et une salle de bloc, ce qui est le cas du 8 assure. Et on peut se tester au bloc.
Oui.
Voilà. Quand vous parlez d'accidentologie tout à l'heure au niveau du bloc, on a quand même des tapis normalisés qui sont d'une épaisseur conséquente. Et il faut vraiment, c'est assez exceptionnel.
Oui.
Hein. Moi, je vous dirais que les vrais accidents qu'on rencontre, c'est à Fontainebleau.
Oui, alors justement, j'allais parler de Fontainebleau. Qu'est-ce qu'on fait comme genre d'alpinisme à Fontainebleau? Tout le monde connaît les rochers de Fontainebleau.
C'est un terrain de jeu. Fontainebleau, c'est un terrain de jeu pour les alpinistes en été. Voilà. Ou quand ils ne peuvent pas pratiquer. Mais c'est essentiellement du bloc.
C'est
parcours, de couleurs, exactement comme on peut trouver dans une salle. Plus ou moins difficile.
Parce qu'on parle des murs, mais il y a des murs indoor, mais il y a des murs aussi outdoor, en dehors.
Il y en a quelques-uns.
Ouais,
alors
quelques-uns.
À Paris, il y en a un qui est au gymnase des Poissonniers, dans le 18e arrondissement, qui est un mur extérieur.
Mais là où il y avait le basket l'autre jour.
Tout à fait, j'y étais.
Ouais.
D'accord.
Ouais.
Mais il est,
au centre des Poissonniers.
Ouais. Voilà, exactement.
Là où il y avait le basket l'autre jour. Là.
Oui, exactement.
Mais il est pas pratique du tout, parce qu'en fin de compte, on ne peut pas le faire quand il fait froid.
Ouais.
On peut pas le faire quand il pleut. Voilà, et en fin de compte, c'est une vieille, c'est une structure quand même qui est un peu âgée, celle du mur des Poissonniers.
Voilà. Et vous, Thierry, dans le 8e, vous êtes où?
Nous, on est derrière l'hôtel du collectionneur, rue de Courcelles, si vous connaissez un tout petit peu l'endroit, c'est pas très loin du parc Monceau.
Oui.
Donc en fait, c'est un centre sportif qui est le centre sportif Jacqueline Auriol, Donc, il y a une piscine et puis il y a un mur d'escalade. Là, pour le coup, on a un mur qui fait 19 mètres, qui est un des plus beaux murs de Paris. On a la chance d'avoir cette infrastructure à disposition. Et puis, on a un espace d'entraînement parce qu'on fait aussi du haut niveau. Donc, c'est plus du c'est orienté bloc, mais c'est plus pour de l'entraînement qui est utilisé principalement pour, avec des exercices spécifiques pour former des gens, des bons grimpeurs.
Alors, ça coûte combien une licence ?
Alors, la licence à la Fédération française de montagne et escalade, c'est 65 euros. C'est à peu près ça.
Ah bah c'est correct, très correct.
Donc, c'est le coût d'une licence. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la Fédération assure pour la pratique en extérieur. Mmh. Donc, toutes les personnes licenciées sont assurées pour leur pratique en milieu naturel. Et il y a un risque qui est objectivement plus important parce que le milieu naturel, c'est un milieu qu'on ne contrôle pas. Donc, ouais. Il peut y avoir des éboulements de rochers. Même si les infrastructures sont contrôlées et vérifiées, il y a toujours l'aspect climatique ou un éboulement ou ce genre de choses qui peut être source d'accident. Après, ça existe. Maintenant, c'est moins dangereux que faire de la randonnée. Il y a beaucoup moins d'accidents. Les principaux accidents en montagne, c'est de la randonnée. Mais il y a plus de pratiques en randonnée qu'en escalade. Donc, je ne suis pas sûr que la comparaison vaille très longtemps. Maintenant, c'est pas le risque. Il est souvent lié à des erreurs humaines et après, parfois, des accidents comme ça, des chutes de pierres. Ça peut être source d'accident.
Et l'équipement, c'est cher ? Il est à la charge du pratiquant, je suppose ?
Alors nous, dans notre club, mais c'est vrai, je pense aussi chez Arcos, je les connais un petit peu. Donc les gens peuvent... on prête du matériel, donc on prête l'équipement de sécurité. Nous, on fait de la voie, donc on donne les baudriers. Mmh. On peut prêter les chaussons. Et après, c'est les pratiquants eux-mêmes, dès qu'ils atteignent un certain niveau de pratique, ils ont besoin de s'outiller pour un équipement qui leur corresponde par rapport à leur pratique.
Il y a une tenue réglementaire ?
Un short, un t-shirt, des chaussons d'escalade et un baudrier pour ce qu'on fait.
D'accord.
Si on souhaite pratiquer et avoir le matériel minimum, c'est-à-dire des chaussons et un baudrier chez Decathlon, c'est quelque chose qui doit tourner dans les 80-100 euros. Mmh. Donc, on peut parfaitement démarrer avec son matériel.
Et ça dure une saison ou plusieurs saisons ?
Ah bah pour les pieds, ça dépend. L'âge de l'enfant, ça évolue. Ouais. Mais sinon, le reste, un baudrier, normalement, c'est 10 ans. Mmh. On peut le garder 10 ans, dans la mesure où c'est une EPI.
Après, le reste, il n'y a pas besoin de d'autres équipements, comme on dit. On peut monter avec un short.
Voilà.
Il n'y a pas de tenue réglementaire, même en compétition ?
Il y a le t-shirt du club.
Ah oui, c'est une obligation. Voilà. Pareil pour Arcos ?
Faut des chaussons, effectivement, il faut le baudrier. Nous, on propose effectivement des choses à la location, c'est du matériel standard, on va dire.
Comme les bowling, quand on va au bowling.
Plus vous progressez, de toute façon, et plus vous devenez fort ou forte, vous avez la nécessité et l'envie de vous équiper avec du matériel un peu plus sophistiqué.
Alors, est-ce qu'il faut être grand et grande et filiforme pour faire de l'escalade ? Si on fait 90 kilos, c'est un sport qui nous est interdit ?
Non, pas du tout. Alors, je vais répondre parce que j'aime bien cette question.
On est là pour ça.
L'escalade a une caractéristique que peu d'autres sports ont, c'est-à-dire que le premier jour de pratique ou si on a 10 ans de pratique dans le sport, on va prendre le même plaisir. Le but est le même. On va juste fixer un défi qui est à son niveau de pratique. Mmh. Donc, on arrive en haut du mur, en haut du bloc. Et pour le débutant, il n'y a pas de notion d'apprentissage d'une technique particulière pour avoir un plaisir ressenti. Donc c'est ça une caractéristique de l'escalade et c'est pour ça que ça plaît beaucoup parce que le premier jour, la première séance, on va retirer le même plaisir ou pas très loin de retirer le même plaisir que quelqu'un qui est très confirmé.
Mmh. Thierry, vous m'aviez dit que vous n'aviez jamais escaladé, vous. Vous n'avez jamais monté un mur.
Jamais.
Vous voyez, je sais tout.
Alors, pour le coup, c'est Francis. Mais c'est pas grave. Non, du tout. Moi, je suis venu comme Thierry.
Comme ça, vous n'aurez pas d'alibi comme ça.
Je suis venu comme Thierry par l'intermédiaire de ma fille. Voilà. Mm-hmm. Qui aujourd'hui, c'est même, après avoir été compétitrice, de bon niveau, pas de haut niveau, mais de bon niveau, qui a choisi d'en faire son métier.
Ah oui. Elle est professeure, elle est monitrice,
brevet d'État, BE.
D'accord.
Voilà.
Ou à quel...
Alors l'avantage, je ne sais pas si c'est un avantage ou pas, elle circule sur plusieurs clubs, donc le club de Massy.
D'accord, très bon club.
Je ne sais pas si c'est au 8 Assure, non.
De temps en temps.
De temps en temps au 8 Assure, elle travaille pour Clamine District, parfois elle a travaillé pour Arcos. Mm-hmm. Voilà, c'est elle est à la fois, elle peut être salariée, elle peut être salariée d'un club et aussi indépendante.
Et l'évolution sur Paris, vous l'avez vu à partir de quand ? Parce que je sais aussi, pour avoir été à l'exposition Spot 24, qu'il y a un centre au centre Philippe Auguste où il y a un mur d'escalade et où il y a aussi eu un artiste qui est venu faire une œuvre. Enfin voilà, le développement sur Paris, vous le voyez depuis quand? Est-ce que
Alors sur Paris, moi, je vais avoir un petit peu de mal à vous répondre dans la mesure où je suis président du comité territorial Paris que depuis un an.
Ah,
mais malgré tout, l'évolution, avant, j'étais président du comité territorial de l'Essonne.
Oui.
Donc quand même, j'ai une petite idée. Ça fait quand même une bonne dizaine d'années où on a vu et ça a été vraiment peut-être un électrochoc au moment où les salles sont arrivées. Alors que les salles marchandes sont arrivées, que ça a été un peu un électrochoc pour les clubs qui ont été obligés de se challenger.
D'accord. Voilà. Parce que le centre Philippe Auguste, c'est dans un gymnase de la ville de Paris.
Dans quel arrondissement ?
Dans le 11e.
D'accord.
Voilà. Et en fait, j'avais vu en allant à l'exposition Spot 24, il y avait une restitution de ce mur en fait. Ouais. Avec des prises, voilà.
D'accord.
Et je ne sais pas si vous en aviez entendu parler.
Du tout.
Non ? D'accord, très bien.
Mais pour aller dans le sens de Francis, c'est vrai qu'il y a peut-être eu une certaine forme de confrontation il y a 10 ans, quand il y a eu l'essor des salles privées. Mais on tend à se rabibocher, à s'aimer, à croître et à grandir ensemble. Et on fait partie du même écosystème, on a un peu tous le même but.
Je voudrais qu'on parle quand même que c'est pourvoyeur d'emploi, votre sport, l'escalade.
Alors, c'est sûr qu'en ouvrant des... Oui, tout à fait. On continue de croître. On est actuellement 600 employés chez Arcos. Donc, ça représente quand même quelque chose d'assez important. Effectivement, on a tout un tas de types de postes à pourvoir. Brièvement, on a une structure dans chaque salle qui est... on a nos hôtes d'accueil polyvalents, ensuite on a des responsables de pôle, ensuite on a des directeurs ou des directrices adjointes, et ensuite on a des directeurs de salle. On essaye de promouvoir un maximum la promotion interne, justement. Au niveau du monitorat aussi, on privilégie en plus le salariat plutôt que les indépendants. C'est une vraie volonté de notre part. On essaye de faire en sorte que l'escalade...
Oui, on puisse vivre de sa passion, quoi.
C'est tout ça. Tout à fait.
Bon, Francis, c'est vrai qu'il faut le rappeler quand même. Il y a beaucoup de jeunes qui s'orientent vers ces métiers.
Tout à fait.
Oui, c'est important.
Tout à fait.
Ouais,
oui, il y en a.
Il faut passer les brevets d'État classiques.
Brevet d'État, c'est comme une formation de 2000 heures. Hein. C'est un vrai engagement avec un coût qui n'est pas négligeable. Mais on a une formation un CQP qui, lui, n'est que de 300 heures et qui peut permettre déjà d'encadrer. Mais essentiellement, c'est quasi quand même un diplôme fait pour les salles marchandes parce qu'il permet que d'encadrer en intérieur.
Alors, vous parliez du haut niveau. Thierry aussi donc, en parlait. Est-ce que c'est un bon cru, Paris et l'Île-de-France, pour le haut niveau ?
L'Île-de-France, oui.
C'est un bon réservoir ?
Oui. L'Île-de-France avec Massy, ça pourrait être encore un meilleur réservoir avec le 8 Assure. Je crois que ton classement, c'était 5e au...
C'était 5e club français, oui.
5e club français, donc de nombreux titres de champion de France, je suppose.
Alors, pas de nombreux titres de champion de France, quelques titres de champion de France. Après, on a la chance d'avoir des athlètes de haut niveau dans notre club avec des titres de champion du monde jeune. Mm-hmm. Donc, on a effectivement un pôle haut niveau qui est assez structuré, qui est en passe de structurer. Et puis après, c'est pour rebondir sur ce que Fabien venait de dire, il y a effectivement des passerelles avec les salles privées qui nous amènent des jeunes qui sont à haut niveau de pratique et qui veulent passer l'étape d'après pour rentrer dans des parcours compétitifs.
Ouais. Donc, comment ça se passe pour ceux qui font du haut niveau ? Parce qu'on avait une jeune karatéka il y a 15 jours. Bon, il faut jongler entre les études, parfois peut-être avec d'autres activités. Ça ne doit pas être facile, quoi.
Non, ce n'est pas facile parce qu'il faut vraiment... C'est des sports non professionnels.
Hein. Oui.
Il y a très peu de grimpeurs de haut niveau qui en vivent. Donc, c'est effectivement une passion qui prend beaucoup de place. Hein. Un sportif de haut niveau va s'entraîner entre 5 et 6 fois par semaine, en moyenne 2-3 heures par jour, voire plus pour certains. Donc, c'est un gros investissement, une grosse partie de leur emploi du temps. Et après, il faut aussi organiser la pratique pour les amener sur des protocoles d'entraînement, pour les amener au niveau où ils sont attendus.
Oui, il y a des sports-études ?
Alors, on a quelques-uns de nos membres en compétition qui sont dans des circuits sport-études. Après, il y a des étudiants qui sont dans des horaires aménagés pour leur pratique sportive. Donc, on va avoir un peu de tout. Les plus jeunes, ils vont commencer. Ça va être des entraînements un peu plus allégés parce qu'ils ne sont pas forcément dans une structure qui leur permette de s'entraîner davantage.
Oui. Francis ?
Et donc, je reviens sur Paris. Ouais. La question, c'était l'Île-de-France et Paris. Ouais. Paris, on a vraiment un problème de structure pour pouvoir développer le haut niveau. Hein. Ouais. Ce n'est pas avec les SAE qu'on a actuellement à Paris.
Alors, avec le budget en moins qui va être voté dans quelques jours, ça va être compliqué. On en reparlera tout à l'heure, mais ça va être compliqué quand même.
Un peu plus, oui, mais ouais. Pas. Je ne suis pas spécialement craintif là-dessus, dans la mesure où c'est. Non, je pense pas. Je pense que certaines fédérations qui sont très subventionnées.
Mais
vous,
pas trop.
Non, parce qu'on a. Normalement, les associations, les clubs doivent être en autosuffisance. Hein, entre la cotisation pour l'adhérent, normalement, on doit la rentabiliser.
Alors, Thierry, vous parliez aussi du handicap. Vous êtes très, très concerné à travers votre club.
Oui, nous, on a la chance dans notre club d'avoir un des encadrants qui est l'entraîneur national des équipes handisport de la fédération. Donc, on l'a accompagné dans le développement du handisport. Donc, nous, au 8 Assure, le handisport, c'est trois filières. Une filière qu'on va appeler médiation thérapeutique, où on travaille avec des centres d'accueil de jour dans des activités autour de la motricité, donc dans le cadre d'un parcours thérapeutique. On a le handisport physique, où là, on est en capacité d'avoir nos encadrants qui sont formés pour l'accueil de ce public, qui sont accueillis avec le reste du public. Il n'y a pas de restriction, de contre-indication. C'est simplement la formation de l'encadrant qui est déterminante pour l'accueil de ce public-là. Et après, le dernier aspect, c'est le handisport mental, où là, c'est un tout petit peu différent parce qu'on n'est pas sur les mêmes effectifs. On va être dans du cours de 2-3 personnes maximum. Et on va les accompagner. Et là, pareil, c'est à mi-chemin entre du sport et de l'activité pour développer de la motricité, pour le rapport à l'autre, ce genre de choses.
Et c'est un sport bien adapté, justement.
Parfaitement bien adapté, parce qu'il n'y a pas de contre-indication. Enfin, on est capable de faire grimper à peu près n'importe quelle personne. Ça devient plus compliqué pour les polyhandicapés. Hein. Mais hormis certains cas qui peuvent être un tout petit peu trop compliqués d'un point de vue logistique à gérer, on est à peu près capable d'accueillir n'importe qui. Après, il faut avoir la structure adaptée. Et puis après, on a un dispositif qui n'est pas extensible à l'infini.
Oui. Francis, au niveau des écoles aussi, il y a des initiations. C'était un sport qui était très pratiqué dans les établissements scolaires. Hein.
Alors, en effet, au niveau des écoles, je vous en parlais, des structures, des 70 structures qui existent et qui sont quand même des structures que pour l'initiation. Elles se trouvent, ces structures, dans des écoles, dans des collèges. Et donc, on a des fédérations telles que l'UFOLEP pour le primaire, l'UNSS pour le secondaire. Et après, j'ai UCEP, je crois, pour pour les facultés. Mais ça reste... Alors, l'UNSS, on arrive à un stade où, en fin de compte, on travaille beaucoup avec eux sur les compétitions. Et ça représente sur Paris 1500 adhérents, uniquement en escalade. Voilà, parce qu'il y a un vrai travail, mais je vous disais aussi, ça dépend du professeur de PS.
J'en ai connu un, donc son club était devenu champion de France.
Voilà.
Dans les Yvelines.
Oui, tout à fait.
Voilà. Allez, on marque une petite pause musicale. Ensuite, on va s'intéresser aux vœux du CNOSF et puis de ce qui s'est passé aussi. La table ronde à l'ARCOM, c'était le 23 janvier dernier. Mais auparavant, la musique.
She likes to be balanced, she's used to give it all. And in certain moves, she doesn't mind to risk to fall. She lives a life to find the good things. And she's always aware not to lose her wings. She tries to live her
She's used to reaching the top. She knows what it means to struggle. Despite the overview she's got, sometimes she gets into trouble. She's never satisfied until she reaches a limit. When she's found a problem, she tries to kill it. Even when sometimes she touches down too hard, she never loses faith to try not to part. She says if you don't know both sides, you'll never find the in between. How far you go, it depends on how much it means to you. She says these words may be an effort for all those that don't have a chance to ask themselves questions about being balanced. To fall, she lives her life to find the good things, and she's always aware not to lose her ways, even when sometimes she touches down too hard. She never loses faith. Try not to part.
Biceps en spanne.
Voilà, donc ça c'était une musique qui était liée un petit peu donc au monde de l'escalade. On va maintenant donc parler des vœux du CNOSF et du budget, hein, puisque le budget donc sera validé, puisqu'on sait qu'aujourd'hui le Parti Socialiste donc a décidé de ne pas voter la motion de censure. Donc quoi qu'il arrive, le budget 2025 qui sera de 721 millions d'euros donc sera adopté. C'est 641 millions plus 80 millions qui ont été donc reversés suite aux différents paris sportifs. C'est quand même une baisse de 268 millions par rapport au budget de 2024, hein, qui était de 909 millions. Et puis ce surplus de fiscalité sera reversé à l'ANS pour notamment donc, le financement des équipements sportifs. Voilà, on parlait que votre sport ne serait pas trop impacté, mais l'ensemble du sport, je sais qu'il y a eu une grogne énorme. Et on justement, va revenir, oui. Vanessa, la grogne, elle était déjà perceptible lors des vœux au CNOSF le 22 janvier dernier.
Tout à fait, mais d'abord on va faire un petit retour en arrière. On vous rappelle, le 25 novembre déjà dernier, il y avait déjà une annonce de la baisse qui s'incluait donc dans la baisse globale budget. C'était déjà 174 millions d'euros. Et puis, bah, comme si que ça ne suffisait pas pour l'héritage et donc favoriser l'héritage, eh ben, le 16 janvier dernier, c'est une baisse de 34 millions d'euros supplémentaires qui a été annoncée. Suite à cette annonce, les athlètes et donc tous les acteurs du monde du sport se sont mobilisés, Teddy Riner et Louis Marchand, en tête.
Et le président de la République.
Et le président de la République. Les sénateurs s'y sont opposés, évidemment. Enfin, évidemment, mais en tous les cas, ils s'y sont opposés. Et le 21 janvier, dans le quotidien L'Équipe, il y a eu une tribune signée par 425 athlètes qui a été publiée. Et donc, le lendemain, nous étions au CNOSF. Oui. Je peux vous assurer que dehors il faisait froid, mais qu'à l'intérieur c'était chaud. Et donc le premier discours de David Lapartient, qui a fait l'unanimité.
On va rappeler que c'est le président du CNOSF.
Le président du CNOSF, bien entendu, qui a souligné une phrase qui m'a marquée. Hein, nos amis de la culture se seraient allongés sur les rails si on leur avait si on avait touché à leur budget. Donc ça, ça a... Ensuite, il y a eu le discours de Marie-Amélie Le Fur, la présidente du comité paralympique et sportif français.
Et présidente de l'ANS, maintenant.
Et présidente de l'ANS, ouais. Exactement. Et qui a eu un véritable succès, hein, pour une standing ovation, hein, à la fin de son discours. Et il y a eu une partie, hein, donc, des dirigeants sportifs qui ont quitté la salle juste avant le discours de la ministre des Sports. Ouais. Voilà, donc,
Marie Barsac, hein,
Marie
qui était
Barsac,
présente.
Exactement. Ouais. Donc, évidemment, cette baisse, elle nuit non seulement à l'héritage, mais au quotidien, au fonctionnement quotidien, hein, des clubs sportifs. Ouais. Je vous propose...
Alors justement, avant d'envoyer le reportage, oui. Du coup, ça a découlé sur les chiffres qu'on vient de donner. Voilà.
Les chiffres, hein, donc les chiffres...
Ouais. Voilà. Oui, c'est les chiffres qu'on vient de donner.
Il y avait eu un amendement de Michel Savin qui prévoyait 113 millions d'euros au début, issus de la taxe sur les paris sportifs.
Oui. Et c'est là, 80, finalement.
Aujourd'hui, on est à 80. Hein, oui. Et cette taxe donc, va servir à financer justement la baisse du budget. Mais bon, c'est quand même l'inquiétude partout. Vous l'avez vu, hein, on en avait déjà parlé, déjà en novembre et puis encore plus dernièrement. C'est tout simplement un scandale.
Mais enfin, la grogne a quand même permis de... Voilà. Voilà, qu'on retire un petit peu moins quand même. Hein.
Voilà, donc évidemment, Marie-Amélie Le Fur avait interpellé donc, la ministre des Sports en lui demandant donc, de faire porter hein, la voix du sport. Je vous propose d'écouter hein, le point presse qui a eu lieu au CNOSF à l'issue donc, des trois discours dont respectivement David Lapartient, président du CNOSF, Marie-Amélie Le Fur, présidente donc, du CPSF et de l'Agence nationale du sport, et puis donc Marie Barsac, la ministre des Sports.
Okay. Il n'y a pas eu de dépêche tronquée, il y a juste eu la porte-parole a dit que les efforts demandés étaient légitimes et ensuite elle a rappelé pour dire que la question serait tranchée en commission mixte paritaire. Donc je ne peux pas vous laisser dire que la dépêche est tronquée. Voilà. Merci.
Il commence.
Le sport ne peut pas se résumer au budget, mais concrètement, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce que vous espérez après cette journée un peu mouvementée?
Peut-être je vais commencer, puis tu comme tout à l'heure. Je l'ai dit, le sport ne se résume pas au budget parce que c'est bien plus que ça. Mais à un moment donné, il faut quand même parler budget. On ne peut pas non plus faire toutes nos activités sans avoir un budget décent. Ce que nous portons comme message commun, on va dire, au sein du mouvement sportif, c'est de dire qu'on a vu une année 2024 extraordinaire. On a vu ce que porte le sport d'une manière générale à la société, bien plus que d'ailleurs les Jeux Olympiques, qui sont un élément du sport. Mais le sport, c'est la cohésion, c'est vivre ensemble. Et on a naturellement besoin d'avoir plus de sport. Pour ça, nous estimons déjà collectivement que historiquement, le budget du sport est faible dans ce pays et que nous souhaitons qu'il puisse être développé. Or là, ce qu'on voit, c'est qu'au contraire, il se trouve restreint et que par rapport aux premières restrictions qui ont déjà été prévues, là, on avait un coup de rabot supplémentaire qui, en plus, était totalement inacceptable, illégitime à nos yeux. Et c'est le message commun qu'on a porté chacun avec nos mots, Marie-Amélie avec beaucoup de vigueur et d'ardeur, en disant on ne peut pas accepter ça. Et on l'a dit, on est très heureux que le président de la République ait clairement aussi soutenu, on va dire, les propositions qui étaient les nôtres. Et ce qu'on attend maintenant, c'est que le travail de la commission mixte paritaire bien ramène le curseur là où il doit être et qui puisse nous permettre de mener nos actions. Ce qui est navrant, c'est de voir que celles et ceux qui ont porté de tels amendements ne raisonnent que sur un aspect purement comptable. On parle d'abord de 34 millions d'euros. Quand on voit l'échelle globale du budget, à l'échelle quand même globale des bienfaits du sport, c'est absolument un non-sens. Et c'est ce que nous dénonçons aujourd'hui. Et c'est ce que le conseil d'administration du CNOSF, après de longs débats cet après-midi, dénonce et que nos fédérations n'acceptent pas. On n'accepte pas que nous soyons encore plus mis à contribution. Alors qu'au contraire, on a un afflux comme jamais dans nos clubs. On ne voudrait pas que l'héritage de Paris 2024 soit complètement tronqué par un budget qui n'est pas à la hauteur des ambitions en matière sportive.
Où doit se situer, selon vous, de manière acceptable, ce curseur que vous évoquez?
Au bon niveau.
Mais encore?
Ah, le bon niveau, vous savez, on est à 0,2% du budget du pays. Je pense qu'il faut aussi raisonner avec le budget cumulé, on va dire, de l'ensemble des collectivités territoriales. Mais on estime, nous, au contraire, que ce budget devrait être développé. Je pense que, légitimement, que nous puissions atteindre 1 milliard d'euros nous semble à peu près légitime en matière de budget de sport.
Madame la ministre, quand vous dites que le Premier ministre a entendu aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez eu des échanges avec lui cet après-midi?
Nous sommes dans une période de dialogue, ça ne nous a pas échappé. Il y a effectivement un amendement qui a été proposé la semaine dernière, qui a été rejeté massivement par les sénateurs à l'unanimité. Et donc, on continue à travailler la feuille budgétaire. Aujourd'hui, nous avons des discussions en cours. Il y a une commission mixte paritaire qui se profile. Et donc, on continue effectivement à discuter. Tant que la commission mixte paritaire ne s'est pas prononcée, on ne sait pas quel budget est accepté. Et donc, pour l'instant, la position que moi, je défends, c'est une position qui est partagée avec le mouvement sportif, qui est celle de s'en tenir finalement à la mouture budgétaire du gouvernement Barnier. L'effort supplémentaire qui est demandé est trop conséquent au regard de ce que peut proposer le sport comme effort. L'effort consenti était déjà suffisant. Nous devons tous évidemment faire des efforts. On a le coup de la censure qui est passé par là, mais là, l'effort consenti était déséquilibré par rapport à la réalité du besoin du sport. On est au lendemain des Jeux, ça a été très clairement dit par Marie-Amélie Lufur et David Lapartien. Il y a des besoins réels aujourd'hui dans les clubs. Il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas pu accueillir de nouveaux licenciés, faute d'équipement, faute d'encadrants. Il faut entendre ce sujet-là. Mais je crois que les sénateurs et les députés l'ont entendu, puisque eux-mêmes ont voté un amendement, M. Savin côté Sénat, M. Dirce côté député. Et donc ces amendements, ils sont sur la table pour la prochaine commission mixte paritaire. Et
le 16 janvier, vous aviez pourtant défendu l'amendement au Sénat. C'est-à-dire que vous avez changé d'avis depuis?
Non, je n'ai pas changé d'avis.
Sur l'amendement que vous avez défendu au Sénat?
Oui, donc là, l'amendement que j'ai défendu au Sénat. Eh bien, moi, je suis... Je suis au gouvernement, je défends les positions qui sont proposées par le gouvernement, mais vous avez bien entendu aussi que j'ai défendu l'amendement de M. Savin au Sénat.
Oui, bien sûr, mais en tant que ministre, vous avez défendu au Sénat la proposition de 30 camions que vous êtes en train de dénoncer là aujourd'hui. C'est ce que je vous dis, est-ce que vous avez changé d'avis sur les 34
millions ? Parce que ce n'est pas que je change d'avis, c'est qu'on est dans une phase de dialogue au sein du gouvernement avec les parlementaires pour trouver le bon équilibre du budget 2025.
Président, vous avez employé le mot de... Vous avez employé le mot de déclassement, je crois. On ne doit pas accepter que le sport français soit déclassé?
Non, on ne veut pas que le sport français soit déclassé. On estime qu'on mérite mieux que ça. Et je pense que Marie-Amélie pourra donner aussi son point de vue, qui est bien sûr notre point de vue et aussi partagé. Il y a un engouement. Les Françaises et les Français, on voit les bienfaits du sport, ont envie de plus de sport. Ils ont envie, après les Jeux de Paris 2024, de s'engager dans nos clubs. On le voit, je veux dire, massivement, dans nos clubs respectifs, on a des arrivées. Et réduire les budgets alors qu'on a des arrivées dans le sport nous semble effectivement être un non-sens. Donc moi, j'ai utilisé le mot aussi de déphasé pour celles et ceux qui ont proposé des amendements de cette nature. Vous savez, on a le sentiment que quelque part, un certain nombre d'acteurs pensent que le mouvement sportif n'est pas tout à fait comme nos amis de la culture, ça s'allongera pas devant le train, et donc on peut continuer de nous tondre sans raison. Eh bien, c'est ça qu'on a voulu, avec force sans doute aujourd'hui, dénoncer, c'est que non, nous n'acceptons pas que sans arrêt, on s'acharne en fait sur le sport par des gens qui visiblement... sont loin d'en connaître l'ensemble des bienfaits et je ne peux que les inciter à rejoindre nos clubs.
Marie-Amélie, vous serez prête à fermer les clubs pour protester, par exemple? Là, c'est une idée juste jetée comme ça.
Mais c'est malheureusement peut-être une réalité qui nous guette. On l'a rappelé, ce n'est pas des économies à la marge qui nous sont demandées, c'est des économies d'échelle. Moins de 300 millions d'euros sur un budget qui pèse seulement 0,2% du budget d'État. C'est des fermetures de clubs qui sont devant nous. C'est des bénévoles qui se sont engagés pendant 7 ans qui vont être totalement désabusés. Alors même, et c'était aussi le sens des vœux de ce soir, c'est de démontrer le bilan, que l'investissement qu'on avait eu et obtenu dans le sport depuis cette année, parce qu'on était unis derrière cet objectif absolument fabuleux des Jeux de Paris 2024, a été un investissement qui nous a permis à la fois d'être à la hauteur de nos engagements sur les hautes performances, sur le haut niveau, sur le résultat de l'équipe de France aux Jeux Olympiques et Paralympiques, mais ça a eu aussi un impact structurant dans les territoires. Et quand on vous dit que les moyens de l'État, les moyens que nous avons mis collectivement, ont structuré la pratique parasportive avec une hausse de 127% dans certains territoires, avec 1000 nouveaux clubs formés. Ça démontre bien que nous sommes des acteurs, quand on leur donne les moyens, qui agissent en responsabilité. Pas pour leur précaré, mais tout simplement pour l'intérêt général, pour le bien commun, pour finalement cette valeur sociale et sociétale du sport qu'on défend toutes et tous. Voilà le message qu'on voulait porter ce soir. C'est en ce sens que nous avons interpellé Madame la ministre. Bien évidemment, on sait Quelle est notre écoute? Parce que la ministre, c'est l'incarnation de l'héritage de Paris 2024. Mais ce soir, c'était important de lui démontrer que oui, le mouvement sportif est mécontent de cette baisse budgétaire qu'on lui demande de faire, alors même, encore une fois, que nous ne pesons que 0,2% du budget d'État.
Madame la ministre, vous parlez de loyauté que vous devez au mouvement sportif dans votre discours. Jusqu'où êtes-vous prête à aller par loyauté? On se pose forcément la question ce soir. Est-ce que si ces 34 millions sont maintenus, c'est sans vous?
Moi, j'en suis pas à faire des menaces, c'est pas du tout mon rôle. Moi, aujourd'hui, mon rôle, c'est de peser aux côtés du mouvement sportif, aux côtés des athlètes qui ont une revendication que je trouve légitime. Donc, mon action aujourd'hui, c'est de dialoguer avec les parlementaires, les sénateurs, les députés, le gouvernement pour infléchir cette position et trouver le bon équilibre de l'effort qui doit être consenti par le budget des sports.
Merci beaucoup.
Merci. Merci à vous.
Voilà pour cette interview faite, bah, comme dans chaque grand événement, en commun avec l'ensemble de la presse. J'aimerais quand même, Thierry, en tant que président de club, un petit peu connaître votre sentiment. Hein. On parlait de moins de 300 millions de baisse. Ça sera donc, on l'a dit, 268 millions de baisse par rapport au budget de 2024. Bon, le mouvement sportif s'est battu. Il a une baisse quand même un petit peu moins importante, même si elle est quand même assez forte. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Bah écoutez, pas grand-chose. Moi, je suis un homme de terrain assez éloigné de ces problématiques.
Oui, mais justement, vous allez peut-être en subir aussi des conséquences, bien qu'apparemment...
Non, alors le terrain, la réalité de terrain du sport associatif à Paris, c'est qu'il y a très, très peu de subventions. Moi, les seules subventions que je perçois sont des subventions pour les athlètes de haut niveau qui vont aux athlètes pour payer leur circuit de compétition. Et ça, c'est une très bonne chose que la ville fait. Donc, est-ce qu'il y a de la pérennité sur ces dispositifs?
Est-ce que ça ne va pas jouer contre les athlètes de haut niveau, justement, cette baisse?
Ça va potentiellement les toucher, mais on n'a aucune visibilité. On n'a pas eu de communication comme quoi ça s'arrêtait. Au-delà de ça, le handisport qu'on fait beaucoup, on le finance par des entreprises. Donc, de toute façon, parce qu'on est dans le 8e arrondissement, on n'est pas un quartier prioritaire de la ville, on a les fléchages de subventions ne vont pas dans notre direction. En ce qui concerne le club que je gère, il y aura zéro impact.
D'accord. Bon, bah, tant mieux.
Après, Philippe, évidemment, ça concerne tout le monde, des sportifs de haut niveau, à la pratique que vous pouvez avoir à côté de chez vous et qui parfois peut être soit semi-payante, soit pas très chère, soit voire même gratuite. Donc, évidemment, tout ça, ça a un impact pour tous. Donc, c'est là où est l'inquiétude.
Oui. Et puis, bon, on va quand même rappeler
et
qu'il y aura quand même...
territoriales.
Oui, on va quand même rappeler qu'il y a quand même une bonne nouvelle, c'est la vasque olympique qui va revenir pendant 3 étés sur Paris, 2025, 2026, 2027, hein, du 23 juin au 14 septembre. Et ça sera payé par l'excédent qu'il y a eu donc pour Paris 2024 par les 26 millions, plus des 26 millions d'euros d'excédent. Bah, c'est ça qui va payer donc les 2,5 millions d'euros donc par an concernant donc à cette vasque. Ça sera avec plaisir en tout cas que les gens donc la retrouveront. Au moins, c'est la bonne nouvelle.
C'est la bonne nouvelle. Voilà. Tous les étés, les juillet, août.
Oui, voilà. Vanessa, juste un petit mot aussi pour dire que Fourcade, ça ne sera pas lui le président du comité d'organisation.
Non,
2030.
En effet, ce ne sera pas Martin Fourcade.
Ouais.
Apparemment, de ce que j'ai
c'est
vu...
même sûr, c'est oui, même sûr, non, c'est même non, sûr. Ça, c'est sûr, c'est pas apparemment, c'est sûr.
Non, mais c'était pas ça que je voulais dire. Mais peut-être qu'il faisait pas l'unanimité de ce que j'ai pu comprendre. Mais après, peut-être vous avez quelques informations supplémentaires.
Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas aussi lisse que Tony Estanguet. Hein. Il a des idées bien arrêtées. Bon, apparemment, le choix du siège à Lyon, ça lui a pas plu. Bon, bah voilà, puis il y avait d'autres...
Qui a déjà été retardé deux mois. Après, bon, vous savez, tout ça, c'est aussi très politique. Donc c'est...
Bien sûr.
Évidemment. Voilà.
Après, il peut y avoir d'autres noms. Hein. Sébastien Foucras.
Vincent G. aussi.
Edgar Gros-Piron, pourquoi pas Luc Alphand, Nathalie Péchala ou Vincent Jay, bah voilà. Il n'y aurait que l'embarras du choix. Voilà. Alors Alexandre, toi, tu étais donc le lendemain, pendant que j'étais chez mes amis de Vivre FM, que je remercie, hein, ils m'ont remarquablement bien accueilli dans leur émission de sport, et c'est d'ailleurs sur leur podcast, on peut retrouver cette émission. Toi, tu étais donc à l'ARCOM le lendemain.
C'est ça, bonsoir à tous déjà.
L'ARCOM, c'est celle qui régularise la
Exactement.
Radio, la télé, et comme on est une radio reconnue quand même, donc on était à l'ARCOM.
C'est ça, donc nous étions présents à l'espace Van Gogh pour la conférence annuelle de l'ARCOM, du sport féminin toujours.
C'est dans le cadre de l'héritage, il faut le dire.
Exactement.
Voilà, le thème, c'était consacré au sport féminin.
Voilà, donc il y avait des noms comme la ministre des Sports, Madame Marie Barsac, malheureusement qui n'a pas voulu parler aux journalistes.
Oui, on l'a vu avec Vanessa, elle a eu une veille très difficile.
Oui, vu que c'était le lendemain, franchement, ça ne m'étonne pas.
C'est possible, possible. Il y avait Madame Delphine Ernotte aussi, présidente de France Télévisions, Roque-Olivier Mestre, donc le nouveau président de l'ARCOM. Madame Laurence Picori-Volier aussi, Emmanuelle Asman, ancienne para-escrimeuse, et aussi notre ami de l'émission Philippe.
Oui, qu'on connaît bien, Riyad Salem, qu'on salue d'ailleurs.
Alors, sport féminin toujours, c'est quoi ? C'est un événement organisé chaque année par l'ARCOM et le ministère des Sports pendant une semaine et qui sert à promouvoir le sport féminin aussi bien dans les médias que dans les associations. L'objectif, en gros, c'est de faire changer certaines mentalités et d'instaurer une parité dans le sport entre les hommes et les femmes. Donc, vous le savez, l'ARCOM, comme tu l'as dit, Philippe, c'est le régulateur de la communication audiovisuelle et numérique. Et du coup, ils ont fait une étude qui détermine la couverture médiatique des femmes dans le sport cette année.
Ah, intéressant.
Très intéressant parce que bon, c'est une année un peu particulière puisqu'il y a eu les Jeux Olympiques à Paris. Donc, l'engouement était forcément immense. Et des chiffres nous ont été donnés, justement. Déjà, il faut savoir que ce sont les premiers Jeux Olympiques avec une telle proportion d'athlètes femmes. Très intéressant. On frôle la parité, Philippe. 49,14% d'athlètes femmes pendant les Jeux. C'est un chiffre très encourageant. Et c'est aussi le fruit d'une longue politique menée par le ministère des Sports et l'Agence nationale du sport. L'ARCOM a aussi interrogé les Français. Et 7 Français sur 10 ont déclaré avoir regardé du sport féminin cette année, ce qui est une bonne chose. Mais le problème, c'est que le sport féminin, Philippe, c'est seulement 16% de la couverture médiatique sportive totale. Donc, c'est peu. On écoute justement Madame Laurence Picori-Volier, membre du collège de l'ARCOM, sur la retransmission du sport féminin aux Jeux Olympiques.
Donc, vous le voyez, en moyenne, 37% de volume horaire de retransmission d'épreuves pour le sport féminin, 56% pour le sport masculin et 7% pour le sport mixte. Si on décline ça, pour les Jeux Olympiques, c'était 42% sport féminin, 55% sport masculin et pour les Jeux paralympiques, 22% sport féminin, 57%. Sport masculin et 21% sport mixte, nous allons revenir sur le détail de ces chiffres. Si on prend donc le détail de ces chiffres et prenons d'abord les Jeux Olympiques, pourquoi avons-nous eu un écart ? Pourquoi ne sommes-nous pas à 50% de retransmission alors que nous avions des délégations qui étaient paritaires ? Un des premiers éléments d'explication, et c'est celui qui est avancé par un certain nombre d'éditeurs, c'est que, évidemment, les médias ont plus particulièrement suivi les sports dans lesquels il y avait des médailles françaises qui étaient en jeu. Or, vous voyez, il se trouve que ces médailles ont été gagnées à 59% par des sportifs ou des équipes masculines et 41% par des sportives ou des équipes féminines, ce qui peut expliquer le décrochage de ce qui a ensuite été retransmis par les médias. Néanmoins, ça ne peut pas tout expliquer, puisque si on regarde du côté de ce qui n'est pas forcément médaille française, on se rend compte qu'il y a aussi un écart. Nous avons regardé, par exemple, les sessions à médailles qui ne concernent pas la France. Donc, on n'a pas cette même disproportion médaille féminine, médaille masculine. Et là, on a 10% d'écart. Nous avons regardé les sessions régulières, celles où il n'y avait pas de question de médaille qui était en jeu, 10% d'écart. Et alors, un petit élément particulier, nous avons regardé les heures de diffusion de forte audience pour voir ce qui était retransmis. Et là, c'est la courbe que vous avez devant vous, entre 20h et 21h, c'est-à-dire les heures de plus forte audience, il y avait 35% d'événements avec des sportives et 15% de retransmission de sport féminin sur le linéaire et les radios que nous avons pu examiner. Donc là, un écart de 20 points. On voit bien qu'il y a encore des questions qui peuvent se poser, des habitudes à réinterroger et une vigilance qui reste tout à fait.
Voilà, donc c'était quand même en auditorium, il faut reconnaître.
Hein, c'était en auditorium parce que ils n'ont pas voulu parler au micro du journalisme.
Bah oui, mais toi, comme moi, c'était tes grands débuts sur le terrain, comme t'es un bon journaliste, t'as pris, t'as réussi
en
quand même à pêcher.
J'ai pris un peu de son.
Voilà, c'est bien.
Donc en plus de cela, on sait que le milieu du journalisme sportif, c'est un milieu à grande majorité masculine, et c'est pour ça qu'il faut faire un vrai travail de fond pour équilibrer tout ça. Il y a certes plus de femmes qui commandent des matchs.
Ça commence quand même. Hein.
Oui, mais seulement 8% ces femmes apparaissent à l'antenne sur la tranche horaire la plus importante, à savoir 20h-22h. Donc il y a des progrès à
nous,
faire.
Nous, on a Vanessa à la radio.
On a Vanessa, on a de la chance. On observe aussi que les questions posées aux athlètes ne sont pas les mêmes. Pour les femmes, ça va plutôt être d'ordre privé, familial, plutôt tourné vers tout ce qui est émotif. Tandis que pour les hommes, ça va vraiment être axé sur la performance en elle-même. Et puis je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, mais dans les quotidiens sportifs, c'est souvent pareil. Les femmes ne font que très rarement la une des journaux. Elles occupent seulement un quart de page, voire moins.
Un petit peu plus maintenant quand même.
Un petit peu plus maintenant, c'est à souligner, c'est vrai. Mais Il y a quand même du retard. Donc voilà, il faut changer encore quelques mentalités, favoriser l'emploi des femmes dans le sport. Mais il y a des signes de changement positif à prendre en
compte. Oui, notamment dans le fameux trophée des champions de l'équipe chaque année, hein, qu'on Bien a sûr. L'occasion de donner dans le bilan. Maintenant, il y a une catégorie hommes et femmes. Et en même temps, il y a même maintenant aussi une catégorie handicapée, hommes et femmes.
Bah justement, on dit que ça change un petit peu, mais qu'est-ce que ça va donner les prochaines années? Déjà, il faut souligner, comme j'ai dit, donc, c'est en net progrès, ce sont des chiffres qui sont vraiment en nette hausse. Par exemple, entre 2019 et 2022, les associations sportives ont observé une hausse de 11% de licenciés féminines, c'est pas rien. Et bien sûr, il n'y a pas de secret, si on veut plus de licenciés femmes ou même de journalistes femmes, il faut donner de la visibilité au sport féminin. Ça passe par une bonne couverture médiatique et des icônes sportives fortes. Et on voit que les diffuseurs font de plus en plus de progrès là-dessus, à l'image de France Télévisions pour les Jeux Olympiques, comme évoqué tout à l'heure, Canal+ pour le rugby et le foot féminin, par exemple, et aussi TF1 qui a obtenu les droits de nombreuses compétitions sportives féminines pour cette année 2025, l'Euro de hand, l'Euro de foot, la Coupe du Monde de rugby, sans oublier le Tour de France féminin et l'Euro de basket qui seront disponibles sur les chaînes françaises.
Oui, mais c'est pas TF1, hein, le
non,
Tour de
non,
France
ça, féminin. Non, ça c'est pas TF1, ouais, ouais. L'Euro de basket et le Tour de France, c'est pas TF1. Ouais. En tout cas, donc, nous sur Mon Paris Sport, on continuera de parler bien évidemment de tous les sports et du sport féminin, évidemment.
Et
ça
puis,
nous permet de poser une petite question.
Ouais, alors justement, vous les femmes dans l'escalade, la parité, elle est.
À peu près, on est à peu près à un peu plus de 40% de femmes. Ah. Mais je pense que c'est mieux chez Arcos.
Exact, j'allais dire, la grimpe est un sport assez paritaire et égalitaire.
C'est bien, tant mieux.
Et moi j'avais le chiffre de 55% d'hommes et 45% de femmes, mais ce qui est déjà un très très beau ratio.
Vanessa Alexandre, c'est tout?
Alors,
juste un petit mot et après on va envoyer la musique. Ouais. Alors.
J'ai un autre chiffre au niveau de nos licenciés. Et une petite remarque, on a les jeunes filles sont plus présentes que les femmes. C'est-à-dire que
c'est l'étrange âge.
Le ratio chez les jeunes, c'est 52 à 55% de femmes, alors que ça s'inverse dès qu'on passe en adulte, où on a plutôt 60 et 40.
Ah oui.
Voilà, 60% d'hommes et 40% de femmes.
Le problème, c'est qu'elles deviennent mamans, donc c'est l'éternel problème.
Je ne me suis pas engagé dans une explication.
Mais c'est une des explications,
Et le chiffre, il est remarquable à Paris, et il est remarquable aussi sur d'autres départements.
C'est le problème, c'est qu'elles puissent réussir quand même à pratiquer le sport tout en étant maman. Non, c'est une des explications. Voilà. Allez, on écoute la deuxième pause musicale. Ensuite, on fera le point foot avec notre ami Stéphane Dezenclos.
Certains pensaient qu'ils étaient seuls, abandonnés là sur le sol. On veut changer tout ça, mais oh là là, oh là là. Certains voudraient qu'on se déchire pour des billets, pour un empire. On veut changer tout ça, mais oh là là, oh là là. Et toi, qui a troqué le jeu contre le nous, qui donnerait le monde au sans dessous. Ici bas, tu es fou. Et toi, qui tend la main vers celui qui n'a rien, sans en vouloir à celui qui a tout. Si pour ça tu es fou, je suis fou. Je suis fou. Je suis fou.
Certains pensaient qu'ils dérangeaient, trop différents. Changer tout ça, mais oh là là, oh là là.
Et oublie les gens qui nous séparent, il est temps qu'on se répare, que tous les fous se préparent sur la ligne de départ. Parlez pas de complot, et l'autre il abandonne. On va déjà se changer soi, oh là là.
Et toi, qui a troqué le jeu contre le nous, qui donnerait le monde sans le sou. Rien, sans en vouloir à celui qui a tout.
troqué le jeu contre le nous.
Qui donnerait le monde sans le sou? Ici bas, tu es fou.
Et toi, tu tends la main vers celui qui n'a rien,
sans en vouloir à celui qui a tout.
Si pour ça, tu es fou. Je suis fou.
Voilà, on va pouvoir maintenant, je pense, peut-être entendre mon ami Stéphane Desenclos. Est-ce qu'on entend Stéphane? Non, apparemment, on n'entend pas Stéphane. Bon, alors, ce qu'on va faire, on va faire le journal des... Si, c'est bon, Stéphane, tu m'entends?
Ouais, très bien.
Ah ben voilà, c'est très bien. Voilà. On est toujours impatients, comme ça, de te retrouver chaque lundi. Voilà. Bon, Stéphane, une belle semaine donc pour nos clubs français en Ligue des Champions, hein, puisque avec deux victoires et deux défaites, eh bien nos quatre clubs quand même se qualifient pour le deuxième tour de cette Ligue donc des Champions. Trois pour les barrages et un donc directement pour les huitièmes de finale. On va rappeler donc que Lille a battu Feyenoord 6-1, victoire aussi du Paris Saint-Germain à Stuttgart 4-1, Inter de Milan par contre qui a battu Monaco 3-0 et puis le Real Madrid qui est allé gagner à Brest 3-0. Donc Lille, je l'ai dit, qualifié d'office pour les huitièmes de finale en terminant 7e avec 16 points. Le Paris Saint-Germain finalement termine 15e avec le même nombre de points que Monaco et Brest, hein, 13 points. Par contre, goal average supérieur pour les Parisiens, plus 5 pour le PSG, 0 pour Monaco et moins 1 pour Brest, ce qui fait qu'on aura donc un Brest-Paris-Saint-Germain et un Monaco-Benfica pour donc les 16e de finale.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Bah, c'est, on pourrait mettre le podcast de la semaine dernière, hein, c'est exactement ce que j'avais annoncé, hein, que Real Madrid gagnerait assez facilement à Brest, à Guingamp, bien que ça a été finalement... Le score est un peu flatteur, je crois, pour les Espagnols. Et puis on a City aussi qui s'est qualifié en battant Bruges, et le Paris Saint-Germain bah, qui a eu un peu de quand, c'est ce qu'on disait la dernière fois, pour moi il y a eu surtout une fausse note, c'est le but encaissé par l'Atlético de Madrid en dernier, quoi, une fausse note, un petit incident, un accrochage dans la dernière seconde, quoi. Sinon voilà, on est content, c'est bien, c'est beau.
Oui,
c'est,
mais c'est pas une surprise, Stéphane, quand même. Attends, on a quand même un football de qualité qui fait que c'est pas une surprise d'avoir quatre équipes qui passent quand même les phases de poule.
La plus
grosse surprise, c'est peut-être Lille, quand même, directement en huitième.
Voilà, Lille directement en huitième. On va dire qu'il y a deux surprises quand même. C'est Lille directement en huitième et Brest qualifié. Moi, je sais pas à vous, mais moi, je reconnais, j'aurais pas qualifié. J'aurais pas parié une seule seconde sur la qualification de Brest, hein, comme quoi des fois il vaut mieux des clubs comme ça qui se battent le couteau entre les dents pour avoir des résultats que des clubs présumés plus grands parce qu'ils ont un jour dans leur vie à 40 ans gagné la Ligue des Champions et qui finalement font zéro point, quoi. Donc c'est bien de voir ça. La grosse déception quand même, bon, c'est pas la Ligue des Champions, mais de la Coupe d'Europe, c'est Nice. On est retourné 30 ans en arrière, quoi. Un club qui a complètement lâché la Coupe d'Europe.
Oui. Alors, pour les autres affiches, quand même, on va quand même rappeler que donc pour ces 16e de finale, il y aura une affiche royale, c'est Manchester City, Real Madrid, hein, Manchester City qui s'en est tiré finalement de justesse en s'imposant quand même face à Bruges. Les autres affiches, c'est Sporting du Portugal, Borussia Dortmund, Juventus Turin, PSV Eindhoven, Club de Bruges justement contre l'Atalanta de Bergame, et Feyenoord Rotterdam contre l'AC Milan et le Celtic Glasgow contre le Bayern de Munich.
Voilà, tout à fait. Non, mais ce qui est, ça veut dire qu'il y a quand même pas. Je dirais que là, peut-être en dehors de Manchester City, Real Madrid, on a peut-être l'affiche la plus équilibrée. C'est peut-être bien si on peut penser que Sporting Dortmund, ça va pas être évident. De quoi, c'est pas évident de donner un favori. Mais Monaco, Benfica,
oui,
peut-être.
Ça c'est équilibré.
C'est assez équilibré. Peut-être comme Sporting Dortmund, c'est aussi assez équilibré. Ça va être sympa. Sinon, effectivement, il n'y a pas de plus. C'est pas très équilibré. Ça va devenir très sérieux après en huitième de finale.
Ouais, c'est ce qu'on disait. Hein, on retrouvera finalement les gros en huitième de finale, comme sous l'ancienne formule. La Ligue Europa, par contre, huitième journée. Nice, on le disait la semaine dernière, hein, Nice qui a complètement délaissé cette épreuve, a fait match nul contre Bordeaux-Glimt 1-1. Et puis Lyon a aussi fait match nul contre Ludogorets 1 partout. Lyon aussi est qualifié directement pour les huitièmes de finale de cette Ligue Europa en terminant 6e avec 15 points. Quant à Nice, on l'avait dit et répété, avant-dernier, 35e avec 3 points.
Ouais, tout à fait. C'est assez. Enfin, moi, je trouve que c'est tout simplement honteux, inadmissible, parce que Francaise et les Niçois peuvent dire ce qu'ils veulent. Il suffit d'analyser un petit peu le parcours de Nice, par exemple, en Ligue 1, et vous vous rendez compte que je ne saurais pas dire tout de suite, là, comme ça. De mémoire, mais la 7e journée, je crois qu'ils ont fait un nul contre le PSG. La 9e journée, ils ont battu Monaco. La dernière journée, la 19e, ils ont battu l'OM. Ce qui veut dire que dans le temps, si vous voulez, ils ont tout le temps réussi à avoir une équipe performante. C'est pas uniquement, ça leur a pas manqué. Ce que je veux dire, dans le temps, ils ont réussi à avoir une équipe performante, mais pas en Coupe d'Europe. Donc ça veut dire que on peut pas expliquer cette déception, cette défaillance de Nice avec les blessés. On peut pas faire ça parce qu'ils ont quand même toujours réussi à faire des super équipes. Seulement, bah là, ils avaient mis l'équipe 2, par exemple, dernier match, pour aller. Là, on peut comprendre, ils étaient peut-être éliminés déjà.
Ah, bah déjà depuis longtemps, oui.
Oui, mais bon, c'est quand même, je trouve, c'est quand même.
Absolument.
Un manque de respect total au foot français, à l'indice UEFA, par exemple, aux supporters. Bon, je crois que ça a été un record de faible affluence au stade de Nice pour ce match. Mais faut le comprendre, quoi. Ils ont complètement. Alors après, c'est vrai comment supporter une équipe comme ça et avoir envie que cette équipe termine dans le top 5 cette saison, par exemple. Je sais pas à vous, mais moi, je n'ai rien contre les Niçois à la base, mais bon, j'ai pas du tout envie que Nice soit dans le top 5 si c'est pour faire la même chose, quoi.
Alors justement, on en vient au championnat de Ligue 1, 20e journée, journée assez prolifique quand même, avec 33 buts marqués.
Très très belle journée.
Ah ouais, beaucoup de buts, hein, avec notamment la victoire de Lens à Montpellier 2-0, la nette victoire aussi avant les retrouvailles en Ligue des Champions, donc du Paris Saint-Germain à Brest 5-2, et puis Monaco qui a cartonné battant CR 4-2, victoire aussi assez nette de Lille devant Saint-Etienne 4-1, entre Toulouse et Nice, un partout justement. Rennes, qui avec son nouvel entraîneur, donc Adi Bey, eh bien, renoue avec la victoire. Ils battent Strasbourg 1-0. Victoire de Nantes à Reims 2-1. Nul entre Angers et Le Havre 1-1. Et puis Marseille, hein, qui une nouvelle fois a su renverser la situation en fin de match contre Lyon 3-2. On va quand même rappeler donc le PSG est en tête avec 50 points. Devant Marseille, 40 points, donc toujours 10 points d'écart entre les deux équipes. Monaco, 3e, 37. 4e, Lille, 35. 5e, Nice, 34. Et 6e, Lens, 33. Donc on voit qu'après Paris et Marseille, eh bien c'est très serré pour les autres places européennes. Et c'est aussi très serré pour la relégation, hein, puisque Auxerre est 11e avec Angers 23 points, Reims 13e 22 points, 14e Nantes 21 points, 15e Rennes 20 points, 16e Saint-Etienne 18 points, et puis même Montpellier qui revient légèrement, 17e 15 points, et 18e Le Havre 14 points.
Oui, tout à fait. Alors ce qui est Montpellier revient légèrement, effectivement. Maintenant, moi, j'ai toujours été un grand défenseur de Montpellier, en disant que cette équipe, elle n'avait pas une tête de relégable en puissance. Je trouve qu'ils faisaient des beaux matchs. On les a vus notamment à Lyon, par exemple. Ils avaient fait vraiment un beau match. Mais le problème, quand même, c'est ce mercato là qui se termine dans quelques heures. Ouais. Montpellier vend tous ses joueurs, quoi. Ils ont vendu là pour l'instant leurs trois joueurs offensifs, notamment, je pense, le meilleur joueur de l'équipe, le Jordanien Tamari, Nordin, ils ont vendu, Akor Adams, bon, c'est sûr qu'il n'était pas en grande réussite cette saison, mais bon, donc voilà, maintenant, c'est ce qui me choque aujourd'hui dans le foot, c'est qu'il y a de tels problèmes financiers que même les clubs qui sont en grande souffrance, comme Montpellier, par exemple, vendent leurs joueurs. Tamari, par exemple, il est arrivé gratuitement. Et il a été acheté là pour 8 millions d'euros par Rennes. Donc Laurent Nicolin, il peut pas refuser 8 millions d'euros. La situation économique de son club ne permet pas. Pourtant, ouais. la perte de Tamari va lui coûter très très cher, je pense, dans l'opération maintien. Quoi. Ouais.
Allez, on en vient maintenant à la Ligue 2, où il y a un petit écart quand même pour les clubs de tête, hein, puisque Lorient a battu le Restart donc, à Saint-Ouen 2-1. Victoire aussi du Paris FC, victoire importante à Guingamp 1-0. Ouais. Amiens qui bat Annecy 1-0. Machu entre Bastia et Metz 1-1. Victoire de Martigues, qui est aussi allée gagner à Dunkerque 1-0. Et Troyes qui enfonce encore un peu plus qu'en 3-0. Donc, pour l'instant, donc, Lorient 43, Paris FC donc, deuxième 40. Donc, il y a un petit trou par rapport à Metz, troisième avec 38 points. Quatrième Dunkerque, 36 points. Et cinquième Guingamp, 35 points. Puis Laval, sixième, 34. Et septième Annecy, 33. Donc là aussi, on voit que pour les places de barrage, c'est très serré. Et ensuite, donc, 12e, Clermont et l'AC Ajax sont 24 points. 15e Rodez, 23 points. 16e le Restart, 22 points. Donc là, c'est très serré pour le barragiste. Par contre, il y a un petit trou avec Martigues, 17e, 18 points. Et Caen, qui est bon dernier, 18e, 15 points.
Ouais, c'est incroyable d'ailleurs. Caen, c'est une surprise. Une surprise incroyable de voir le club. Rien ne va plus, on a l'impression que rien ne va plus dans ce club, donc c'est assez désespérant. Quoi. Maintenant, c'est vrai que on le dira tous les lundis, hein, oui. Ça va être très très chaud, et puis rien ne prédit qu'il ne va pas y avoir encore des remontées, des trucs spectaculaires, une équipe qui revient derrière, qui fait une super série et qui revient. C'est un championnat complètement fou. Alors,
oui. Devant Lorient et Paris FC, on fait un petit trou, mais enfin bon.
Ouais, mais bon, c'était le cas il y a un mois ou deux, c'était le cas. Hein.
Oui.
Et puis pour Paris FC, il y a un moment donné, avant d'aller à Guingamp, par exemple, on se posait la question de savoir si en cas de défaite, ce qui allait leur arriver. Imaginez qu'ils aient perdu à Guingamp, ils seraient quatrième, je crois que j'avais à peu près regardé, ils passaient quatrième, donc c'est compliqué, quoi. C'est un championnat très, très, très difficile, quoi, donc...
Allez, en National, 19e journée, ça va toujours aussi bien pour le Paris 13 Atlético, hein, qui progresse depuis quelques semaines. Ils ont battu Villefranche en Beaujolais 1-0. Par contre, ça va beaucoup moins bien pour Versailles, qui s'enfonce un peu plus. Battu chez le leader Nancy 3-2. À noter la victoire de Rouen à Orléans 1-0. Et puis celle de Boulogne-sur-Mer face à Quevilly-Rouen, l'autre club donc rouennais, 1-0. Donc Nancy 36 points en tête devant Boulogne-sur-Mer, deuxième 33 et Orléans 3e 29. À noter que le Paris 13 Atlético maintenant est 11e à égalité avec Rouen et l'autre club de Rouen, donc Quevilly, 22 points. 14e Villefranche-en-Beaujolais, 17 points. 15e Nîmes-Versailles, 16 points. Et 17e Châteauroux, 14. Ça sent aussi le roussi pour Versailles, hein, Stéphane.
Ouais, je sais pas parce que. Si on regarde ça comme ça, bien sûr, maintenant ils sont à un point du 14e.
Ouais, mais ils ne sont pas dans une bonne spirale, hein. Ils ne sont pas dans une bonne dynamique par rapport au Paris 13 Atlético. Hein.
Ouais, bien sûr, ouais. Ouais. Mais par rapport à Nancy, quand même, qui écrase un peu tout sur son passage. Ouais. Mmh. Donc ça peut être... On ne sait pas. Dans ce championnat-là, c'est difficile de voir. Même, je vous parlerai par exemple d'une équipe comme Rouen, par exemple, qui a d'énormes ambitions, qui est effectivement 11e, qui a 7 points d'Orléans, qui est le 3e, mais qui vient de gagner Orléans, donc il y a 7 points, il reste quand même beaucoup, beaucoup de matchs, hein, en national, donc
15 journées, quoi, 15 voilà. journées. Ouais.
Donc il y a des points à prendre, donc je pense que tout peut arriver, notamment, je pense aussi, surtout, peut-être plus encore à une équipe comme Sochaux, par exemple, qui peut revenir. Je sais, c'est sûr, c'est qu'il y a de grandes chances quand même de voir le retour de Nancy en Ligue 2, ce qui ne sera pas une.
Oui, ce qui est normal, hein. C'est une ville de football quand même. Hein.
Ce ne serait pas quand même une mauvaise chose, quoi. Et puis, est-ce qu'il nous promet d'ailleurs, si jamais Metz ne monte pas, des beaux derbys. Derby en Lorraine, quoi. Donc ça va être sympathique, quoi.
Oui.
Donc en tout cas, j'espère de tout cœur que le Paris Atlético va arriver à s'en sortir, parce que ça voudra dire ça voudra dire déjà qu'ils ont tenu, retenu les leçons du passé, et c'est bien de voir ce qu'ils, c'est bien de voir ce qu'ils font en tout cas.
Allez, on va finir avec le championnat féminin. Là, il n'y a pas eu de surprise. Hein, 14e journée, tous les équipes de tête se sont imposées. Tout à l'extérieur. Lyon est allé gagner à Montpellier 4-1. Le Paris FC a gagné à Reims 3-0. Le Paris FC à Strasbourg 2-1. Et Dijon à Guingamp 3-0. Donc là, statu quo, en tête Lyon 40 points. Devant le Paris FC 33 points, deuxième. Troisième, le PSG 32 points. Et quatrième, Dijon 26 points.
Voilà, on a les équipes. On a les équipes de barrage. Bon, j'ai regardé le match contre Strasbourg. Elles mènent 2-0, elles prennent un but à la fin. Elles ont été elles ont un peu tremblé peut-être sur la fin. Mais elles disaient que les filles parisiennes disaient qu'elles voulaient absolument venir sur Paris FC. Je ne sais pas exactement. C'est vrai que je crois qu'ils avaient dit que la qualification, la nouveauté cette année, c'est que la qualification européenne restait, je crois. Mais alors, je ne sais pas ce qu'il en est de terminer deuxième ou troisième, si ça reste, si c'est important pour la qualification européenne.
Ouais, oui, il passe par des barrages, peut-être, comme l'avait fait peut-être le Paris FC. Bon, enfin, on verra.
Oui, oui, mais en tout cas, je ne vois pas. Sinon, ça peut être le seul intérêt de terminer deuxième ou troisième. Bah, oui. Sinon, quoi, ou savoir le match retour, où aura lieu le match retour. Mmh. Mais en tout cas, voilà.
Très bien. Merci Stéphane pour ce copieux point foot comme chaque semaine. Ouais. Rendez-vous la semaine prochaine. Semaine de Coupe de France, hein, quand même. Hein.
Ouais, semaine de Coupe de France. mais il n'y a pas de gros match. Il n'y a pas d'affiche. Il faut être honnête. Il n'y a pas d'affiche hyper excitante. Ouais. Quoi.
Donc la hiérarchie devrait redevenir.
Il y aura peut-être sûrement des surprises. Donc là, il n'y a pas de match très, très excitant. Peut-être un Bourgoin-Jallieu-Reims, parce que Reims, c'est pas au mieux. Mais bon.
Très bien. Merci Stéphane. Voilà. Rendez-vous la semaine prochaine.
Bonne soirée à tous.
Merci Stéphane. Voilà pour notre ami Stéphane de Zanclos, donc du quotidien du sport. Ça vous intéresse le foot ou pas? Un petit peu. Ouais, un petit peu. Ouais. Non. Ah, vous êtes un fidèle du Parc des Princes. C'est vrai que le 8e, c'est pas loin. Hein. Et le foot, ça vous intéresse?
Si, pas trop. Assez, ouais. Ouais. Je suis inquiet pour Montpellier, mon ami. Moi, je sens que ça va descendre et j'aimerais bien que Paris FC remonte en Ligue 1.
Ah, Paris FC, c'est plutôt bien parti, ouais. C'est pour te bien parti. Bon, c'est vrai que Montpellier, quand on pense à Loulou Nicolas, on est un petit peu malheureux.
Ah, ouais, effectivement. Ouais. Mais Kylian Mbappé, il n'avait pas investi, il n'est pas monté
à l'actionnariat. Il avait investi à Caen et qui, malheureusement. Quand il va descendre. Allez, Alexandre, il y avait pas que du foot ce week-end, il y avait d'autres gros événements sportifs. Et on commence avec le rugby, naturellement. La belle victoire du 15 de France, même s'il y avait une opposition très limitée.
C'est ça, on commence sur Journal des Sports avec le rugby, les résultats de la première journée du tournoi Destination. Oui. Carton plein pour nos Bleus qui remportent leur premier match 43-0 contre le Pays de Galles. L'Écosse gagne 31-19 contre l'Italie et l'Irlande 37-22 contre l'Angleterre.
Très beau match, 27-22. L'Irlande, match de très haut niveau.
37-22.
Non, 27-22.
C'est...
Je peux te le confirmer, 27-22.
Ah, tu l'as regardé alors.
Ouais. Je regarde tout.
Au classement, la France est leader avec 6 points, l'Irlande 2e avec 5 points, l'Écosse 3e avec 4 points, l'Angleterre 4e avec 1 point et l'Italie et le Pays de Galles sont tous deux derniers avec 0 point. En handball, on connaît
le pays vainqueur champion de ces championnats du monde.
C'est le Danemark qui l'emporte en finale face à la Croatie, 32-26. La France se console en terminant 3e de la compétition après avoir gagné la petite finale 35-34 contre le Portugal. On rappelle que nos Français avaient perdu contre la Croatie en demi 31-28.
Oui, alors je voulais quand même dire, c'est quand même un parcours assez incroyable. Ils ont fait à peu près comme les femmes, hein. C'est-à-dire qu'ils étaient sans faute dans les phases de poule et puis dès qu'on s'est arrivé dans les phases éliminatoires, malheureusement ça s'est moins bien passé. Les hommes ont pu aller quand même terminer une 3e place que nos filles du hand avaient terminé donc 4e. Mais c'est marrant, c'est des parcours un petit peu similaires. Peut-être un petit peu d'excès de confiance équipes nationales.
Chez les femmes, on jouait la 11e journée du championnat et le Paris 92 est tombé contre un os. Brest-Bretagne qui a gagné 36-23 contre les Parisiennes. Au classement, le Paris 92 descend à la 8e place, mais c'est toujours leader devant Brest-Bretagne et Dijon. En basket maintenant, 24e journée d'Euroleague cette semaine et victoire du Paris Basket 91-82 contre Lyon-Villeurbanne. Victoire également de Monaco devant le Real Madrid 77-73. Au classement, les Monégasques sont 3e, les Parisiens 4e et les Lyonnais 14e. En Betclic Elite, on jouait la 18e journée et nos franciliens entre le Paris Basket et Derby francilien entre le Paris Basket et Nanterre. Et victoire des Parisiens 92-78. Au classement, les Parisiens passent devant Cholet à la première place et les Nanterrois sont eux 14e à une défaite de la zone rouge. On passe au volleyball et résultat de la 19e journée de Marmara SPAC League. Paris perd 3-1 contre Narbonne et le Plessis Robinson gagne enfin. Contre 7-3-1 dans un match important pour le maintien. Au classement, Paris est 8e et le Plessis 13e. en Ligue A féminine Paris. Résultat de la 19e journée de championnat et Levallois Paris perd face au leader Nantes 3-1. Au classement, le club des Hauts-de-Seine est 4e derrière Vendeuvre-Nancy et le Pays d'Aix-Venelle. En judo maintenant, Philippe.
Oui, le grand slam, grand rendez-vous
grand slam,
sur Bercy.
À Bercy. Et les Français ont brillé lors de cette édition,
oui,
avec un total de 15 médailles, 3 en or, 3 en argent et 9 en bronze. La France termine en tête du classement des nations devant le Japon. Romain Valadier-Picard, Martha Fawaz et Léa Fontaine ont tous les trois remporté les médailles d'or dans leur catégorie. Pour rappel, Teddy Riner, Clarisse Abdé-Ménénou et Roman Dico étaient tous les trois absents. En tennis, bien lancé par les victoires d'Hugo Humbert et d'Arthur Fils samedi, l'équipe de France de Coupe Davis a conquis sa qualification pour le deuxième tour dès l'issue du double, remporté par Pierre Hugerbert et Benjamin Bonzi. Les Bleus ont désormais rendez-vous en septembre contre la Croatie.
Oui, c'était contre le Brésil, hein. 3-0, oui, ça rappelle des choses. Hein. 4-0, ouais, 4-0, ça rappelle des choses.
Le Brésil.
Ouais. Voilà.
On passe au cyclisme et au résultat des championnats
cyclo-cross,
du monde
ouais,
cyclo-cross en Belgique. Mathieu Van Der Poel était tout simplement trop fort ce dimanche à Liévin. Pour la 7e fois, le Néerlandais est champion du monde de cyclo-cross. Là où son meilleur ennemi, Wout Van Aert, n'a pas pu faire mieux qu'une seconde place pour la 5e fois de sa carrière. Chez les femmes, c'est Van Ampel, la Néerlandaise de 22 ans, qui remporte son 3e sacre de suite. Et on termine ce journal des sports avec une page sport d'hiver et les résultats des championnats d'Europe de biathlon. C'est un samedi décevant pour l'équipe de France. Aucune Française n'a terminé sur le podium de la poursuite. Sophie Chauveau termine 5e, alors qu'Oscar Lombardo a été le seul tricolore à intégrer le top 10 de la course masculine. Et bien sûr, je vais laisser Vanessa conclure avec les résultats des championnats d'Europe de patinage
Vanessa,
artistique en Estonie.
Une médaille d'argent, une médaille de bronze.
Une médaille d'argent,
il
n'y
a pas champion d'Europe.
Non, mais c'est tout à fait normal. Tout d'abord, Adam Siaoufa, double champion d'Europe, il revenait d'une blessure, donc une blessure, la rupture partielle des ligaments. Il y avait eu d'abord au printemps une première blessure, et puis il s'est re-blessé à la Coupe de Chine. Donc ça faisait seulement 4 semaines de préparation, et c'est déjà une très belle médaille. Hein. Il était au bout de lui-même dans le programme court comme dans le programme libre.
Il a fait sa pirouette.
Et exactement, le backflip plutôt. Et donc, très bonne performance pour Adam. Il n'y a rien à regretter. Et puis, la compétition a été gagnée par un Suisse, Lucas Bridgi, premier Suisse à être champion d'Europe depuis Hans Gerschwiller en 1947. Et après ça, plus récemment, il succède à l'immense aussi Stéphane Lambiel, hein, vice-champion olympique, deux fois vice-champion d'Europe et aussi médaillé mondial. Donc une première pour la Suisse, totalement méritée, deuxième l'Italien et troisième notre Français. Et puis en danse sur glace, Cocorico aussi, médaille d'argent pour Evgenia Lopareva et Geoffrey Brissot, avec deux super programmes, le premier programme sur la danse rythmique sur Bonnet M, Rasputin, et puis un programme plus gothique, plus esthétique sur... donc BFRND qui a accompagné le défilé Balenciaga, un super programme, et ils ont été prendre l'argent, ils visaient le bronze et ils ont eu l'argent, donc c'était vraiment un très bon résultat. Il y a rien à regretter, hein. Donc voilà. Et puis juste donner quelques résultats. En couple, la compétition a été remportée par les Allemands Minerva Fabianaseu et Nikita Volodin. En danse sur glace, ce sont les Italiens Guignard Fabri qui l'ont emporté. Et chez les dames, Nina Petrokina, à domicile, qui a remporté la compétition devant la géorgienne Anastasia Gubanova et la belge Nina Pinzaron.
D'accord. Et donc, place maintenant au championnat du monde. Je crois que ça sera aux USA, fin mars.
À Boston, ouais, tout à fait. Et important, puisque ce sera qualificatif pour les quotas donc, des Jeux Olympiques l'année prochaine. Donc, ce sera une étape importante pour aller chercher les quotas.
Voilà. Mais merci en tout cas Vanessa pour cette émission encore très dense et très chargée. Merci messieurs d'avoir été nos invités. Hein. Et puis écoutez, on vous souhaite bonne chance pour l'escalade. Si on veut rejoindre des clubs d'escalade, il y a des sites internet. Alors vous le dites.
À peu près chaque club a son site internet.
D'accord.
Et sinon, vous greffez sur le site de la Fédération française de la montagne et de l'escalade et vous allez trouver où grimper.
Très bien, ça sera.
Vous trouverez tout ce qu'il faut.
FFME.fr.
D'accord, c'est très bien, ça sera le mot de fin. Merci à vous, merci à notre ami Léo pour avoir mis encore une nouvelle fois brillamment cette émission sur le plan technique en route. On vous laisse avec Au bout du foot d'ici quelques minutes. Rendez-vous la semaine prochaine et on finit comme chaque lundi en musique. Belle soirée à toutes et à tous et vive plus que jamais le sport.
Bonne soirée.
mots sans t'embrasser, sans un regard sur le passé. Le passé. Dès que j'ai franchi la frontière, le vent soufflait plus fort qu'hier. Quand j'étais près de toi, ma mère, on m'appelait.